Voici la revue de presse. Bonjour Bruno Duvic.
Bonjour à tous.
L'hyper-revue de presse.
La revue de presse dans les journaux.
La revue de presse.
La revue de presse qui fait parler et qui vous fait réagir, c'est avec Natacha Polony.
Revue de presse française. Et on commence cette revue de presse avec...
Et on commence cette revue de presse avec notre bien-aimé Laurent Wauquiez, j'en perds mes mots là.
Mais tout à fait Rémi, alors dans l'Express cette semaine, le dossier central était dédié au candidat à la présidence des Républicains. Ça commence en couverture avec « Cet homme peut-il fédérer la droite ?». À l'intérieur de l'hebdomadaire, on retrouve le journaliste Éric Mandonnet qui a décidé de raisonner par l'absurde. S'il n'y a guère que les imbéciles qui ne changent pas d'avis, alors Laurent Wauquiez est l'homme le plus intelligent du monde. Le ton du papier est assez moqueur, on y raille les petites manipulations et gros revirements de l'homme qui, en 15 ans, a parlé comme un centriste tout ce qu'il y a de plus macroniste, comme un Sarko, comme un Chiracien et comme une Marion Maréchal Le Pen, parfois à quelques mois d'intervalle seulement. Et pourtant, on sent vite poindre l'hommage sous la caricature. Laurent Wauquiez est certes une incroyable girouette, mais que voulez-vous ? C'est un homme de grande culture et sans conviction, dit l'un de ses compagnons de route. Est-ce qu'on vous avait dit qu'il avait fait Normal Sup, Sciences Po et l'ENA ? Oui, on vous l'a dit ! Mais quel homme quand même ! Laurent Wauquiez ose tout, et c'est bien pour ça que notre bon journaliste de droite l'admire. Écoutez-moi ce petit frisson d'excitation dans la fin de l'article, je cite « En cette fin de 2017, Laurent Wauquiez a atterri et posé ses bagages idéologiques. Pour combien de temps ? Demain, il vêtira ses nouveaux habits, président du premier parti de droite. Attention au décollage. » Il me monte du désir dans le creux de mes reins, tout ça. Comme chanterait l'autre, c'est vulgaire, c'est médiocre. Que voulez-vous ? On est dans les colonnes de l'Express.
Bon, et à part ça aujourd'hui, sale temps pour Bernard Arnault dans la presse.
Et c'est le moins que l'on puisse dire, et il y a de quoi. Dans sa presse, ouais. On commence avec Le Monde, alors qui n'est quand même pas sa presse, qui poursuit jusqu'à la fin de la semaine ses révélations au sujet des Paradise Papers, et François Ornet vous en parlait un petit peu plus tôt. En gros titre donc, Trust Offshore, opacité des grandes fortunes, un dossier de 6 pages et c'est le patron de LVMH qui est tout particulièrement épinglé aujourd'hui. 4 journalistes sont intéressés à la luxueuse maison de famille du nord de Londres, décorée avec goût, grand parc, cours de tennis, tout confort, eau courante à tous les étages et surtout financée par une société écran basée à Jersey. Quand on lui demande si ce joli montage est déclaré au fisc, Bernard Arnault se refuse bien sûr à tout commentaire. Vous pourrez aussi jeter un œil en page 4 avec les trusts, une opacité pluricentenaire. Dans une petite perspective historique qui n'est pas inintéressante, vous saurez exactement ce qu'est un trust, comment ça fonctionne à la limite de la légalité, et surtout pourquoi diable ça existe encore. Réponse, parce que le fisc français ne dispose d'aucun véritable registre des trusts comme on en a pour les paradis fiscaux.
Alors revenons quand même peut-être sur Bernard Arnault si tu veux bien.
Allez, en une de Libération ce matin, optimisation fiscale, le business de l'ombre. Le dossier insiste plutôt sur le côté très professionnalisé de l'évasion fiscale, quasiment une filière économique à elle toute seule, et ainsi la première fortune de France aurait à sa disposition pas moins de 8 avocats de grands cabinets internationaux pour le conseiller. Sur la même page, vous retrouverez aussi un charmant petit portrait du, je cite, « bon samaritain » fiscalement évadé en Belgique, dont il a un... temps penser demander la nationalité. Arnault est l'homme qui ne tient pas ses promesses, qui liquide les entreprises qu'il rachète et ne conserve que ce qui peut asseoir son empire du luxe. Comme conclut le journaliste de Libé, il suffit de surjouer un peu de mécénat dans la culture et les médias, d'installer une fondation Vuitton dans le bois de Boulogne avec la complaisance de l'État et tout est oublié. Merci patron.
Et d'après les colonnes du Canard enchaîné, les banques doivent plutôt remercier les pauvres.
Exactement Rémi, le Palmipède révèle que les banques font 4,9 milliards d'euros de bénéfices sur le dos des travailleurs pauvres. C'est ce que révèle une enquête commandée par des associations de consommateurs. Vous savez, ces mêmes associations auxquelles Macron veut retirer 40% de leurs subventions. Alors c'est très simple, un client moyen, s'il paye environ 34 € de frais bancaires par an, eh bien un ménage en difficulté lui paiera plus de 500 € par an, en frais punitifs pour découvert, en amont, commençant, c'est du véritable racket.
Et à propos de racket des pauvres, on referme ta revue de presse avec une dernière petite suggestion. Alors, pas suggestion de racket, j'espère.
Non, absolument pas. Je vous recommande très chaudement l'enquête « Grande ville et bon sentiment » dans le numéro de novembre du Monde diplomatique qui vient de sortir. Benoît Bréville y démonte pour nous la nouvelle logique de l'attractivité des villes, telle qu'elle est pratiquée à Seattle et dans tellement d'autres grandes métropoles aujourd'hui. Le constat est simple, les autorités municipales ont un faux économiste et un vrai gourou, il s'appelle Florida, inventeur du concept de classe créative. L'idée, c'est que si votre ville attire un maximum de créatifs, c'est-à-dire des diplômés, des start-upers, des artistes, des cadres sup, que vous les accueillez en plein centre-ville avec des immeubles éco-responsables, des friperies, des restos sans gluten, qu'ils sont à 2 pas de leur lieu de travail dans un cadre parfaitement idyllique, alors votre ville sera tout simplement sauvée de la crise. Bienvenue donc dans un monde où le droit à la ville est confisqué au profit des trentenaires blancs, aisés et célibataires. À Seattle, les classes populaires et la classe moyenne noire sont rejetées de plus en plus loin du centre-ville à cause des prix de l'immobilier toujours plus élevés. Toute cette population de caissières chez Starbucks, de vendeurs, de conducteurs chez Uber et de femmes de ménage, c'est aussi ça l'Amérique qui vote Trump. Ne pas loger les travailleurs dont l'économie a besoin, ce serait loin d'être la première contradiction du capitalisme. Et c'est tout Rémi pour ma revue de presse des 8 et 9 novembre.
Merci beaucoup Marie pour cette revue de presse. Et tout de suite, on parlait un petit peu d'économie. On va passer à toi Robin pour ce biais économique. Donc bonsoir Robin.